Je suis avec Didier Durmarc, qui est écrivain, mais aussi professeur de philosophie au lycée Les Fontenelles à Louviers, donc pour nous présenter son second ouvrage, Moins que rien, aux éditions Toth. C'est votre premier roman, déjà merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Donc c'est votre premier roman, Moins que rien, c'est l'histoire en fait d'un personnage, donc le narrateur, qui se rend compte que la vie ne sert à rien et qui veut vendre son existence. Alors c'est vrai que les premières choses qu'on se dit quand on lit le livre, c'est bah, alors l'existence ça sert à rien, pourquoi tu te suicides pas? Et il explique aussi que le suicide c'est faire honneur aussi à la vie, et donc il essaie de vendre son existence notamment à la science. Vous êtes professeur de philosophie, quand on lit ça directement on se dit hop là, ça va être aussi un cours de philosophie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes attaché à ce problème de l'existence dans votre ouvrage?
Alors petite correction, une petite précision en tout cas. On pourrait très bien dire que la vie ne sert à rien, mais qu'elle a du sens, déjà. Et puis, ma vie peut beaucoup servir, mais elle peut être totalement dépourvue de signification. Par exemple, si je travaille à l'usine, si je fais les 3-8, je vais avoir une vie manifestement très utile. Mais je vais peut-être avoir une vie dénuée de signification, en tout cas si je n'ai pas de vie de famille, de vie affective relativement conséquente. Alors ce qu'essaye de mettre en valeur l'ouvrage et le personnage, c'est que voilà ce qu'il y a d'universel dans la condition humaine, c'est un certain constat qu'on pourrait appeler le constat de l'absurdité immédiate de la condition humaine, au sens où quand je suis en vie, je me sens pas systématiquement vivant. Donc il y a finalement une rupture entre le fait de se sentir conscient, je sais que j'existe, que je suis là, et le fait de sentir vivant. Parfois je ne sens pas la vie, elle n'est pas là. Et,
mais c'est quoi sentir la vie ?
Sentir la vie, là c'est réaliser qu'on existe, réaliser qu'on a une spécificité, qu'on a
un être. Mais par quoi on le réalise ?
Alors par quoi on le réalise ? C'est ce qu'essaye de déployer entre autres l'ouvrage. Les réponses classiques jusqu'à maintenant, c'était par la quête d'identité. C'est une réponse qui est intégrée, qui est prise en compte par le roman. Mais là, plus fondamentalement, on va dire par la révolte, puisque s'il y a un constat, si on a un personnage relativement noir, relativement violent, y compris envers lui-même, il part finalement du non-sens de l'existence, mais pour produire de la vie, pour produire du sens, pour produire une signification, même si cette signification-là est précaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette signification-là, cette quête-là, semble être universelle. Il y a tout un parcours du personnage qui se dit athée alors qu'il a un sens de la spiritualité très affirmé, donc une coexistence des contraires qui dérange, beaucoup de paradoxes, qui rencontre finalement son âme dans son lit, qui est symbolisée par l'ange barbelé, donc avec le symbolisme de la Shoah, et qui tombe amoureux d'une femme qui s'avère finalement être son âme, et cette femme s'avère être de confession musulmane. Donc il y a finalement...
Mais comment est-ce que vous avez mélangé tout ça? Pourquoi est-ce que vous avez mis ces ingrédients-là justement? Parce qu'au début du livre, on se dit, oui voilà, c'est un type, il est pas bien, hein, il est vraiment pas bien, il déprime, il fait n'importe quoi, il se saoule, des trucs assez drôles. Il parle beaucoup de son enfance, il fait des trucs assez bizarres. Par exemple, quand il dit que le premier cadeau qu'on fait à une mère, c'est ce qu'il y a dans la couche, la crotte. Et puis, en fait, du coup, il dit qu'il aime ses voisins en faisant des crottes un peu partout. Donc, au début, on se dit, mais c'est quoi ce personnage? Et puis, justement, voilà, il y a cette symbolique de l'âme où il y a une quête. Pourquoi est-ce que l'âme, à un moment donné, c'est la Shoah? Et pourquoi, à un moment donné, c'est Fatima, la musulmane dont il tombe amoureux?
Il y a une formule d'un poète latin qui dit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup en exergue les différences. Hein. Et par exemple, on essaye de mettre en rivalité les souffrances. On dit, voilà, par exemple, on parle beaucoup de la Shoah, on parle beaucoup de l'extermination des Juifs, et on ne parle pas du conflit israélo-palestinien, du fait que les Arabes n'ont pas d'État et que cette demande est tout à fait légitime. Moi, justement, ce que j'essaye de mettre en exergue symboliquement, c'est déjà un constat tout à fait relatif et momentané des différences et voir que, finalement, ces différences-là, elles sont complètement surfaites. Et ce qui m'intéresse, c'est un message universel, mais pas un message, on va dire, seulement humaniste, parce que j'aurais tendance à penser que l'humanisme n'est pas suffisant. On le voit, le XXe siècle l'a montré, ça ne suffit pas. Mais un message qui, justement, essaye de partir sur l'absurdité, sur le constat du néant, quelque chose que tout le monde peut faire indépendamment de sa culture, indépendamment de sa foi, parce que c'est un constat rationnel et que tout le monde dispose d'une raison. Ce que je considérais intéressant pour le lecteur, c'était de mettre en scène cette quête, cette révolte, et de bien montrer que cette révolte-là, cette quête-là, elle est vraiment universelle. Elle transcende les différences, et somme toute, il n'y a pas fondamentalement de différence qu'on ne soit pas capable de dépasser, parce qu'on a une raison. Voilà, il y a une universalité de l'homme qui est évidente, mais qu'on ne souligne plus assez.
Il y a aussi le côté pluriel, parce que justement, si l'âme de ce personnage est à la fois un personnage de la Shoah, à la fois une femme musulmane, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, justement, on peut avoir des valeurs plurielles et qui ne sont pas contradictoires?
Oui, bien sûr. Alors, il y a cette dimension universelle, et il y a bien évidemment une dimension qui tourne autour de l'identité. Hein, Rimbaud avait dit au XIXe siècle « je est un autre ». On pourrait aller beaucoup plus loin et dire que « je est plusieurs autres ». Ce qui est évident, c'est que quand je suis vraiment ouvert sur le monde, quand je suis en chemin, quand je ne suis pas enfermé dans mes habitudes, dans des mécanismes, dans des choses qui ne sont pas vivantes, tout m'interpelle. Je suis indifférent à rien. Donc il est clair que quand je dis rien de ce qui est humain ne m'est étranger, il y a fondamentalement cette dimension-là. Et ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, on essaye parfois de faire rentrer des souffrances, de faire rentrer des non-sens, des absurdités en concurrence, alors que là, justement, ce que montre le personnage, c'est qu'il y a bien une universalité ici, et que même si on ne peut plus faire confiance à la raison, au sens où ben, la raison est capable de produire le pire, on peut au moins partir de la raison pour se mettre d'accord sur un constat et se mettre d'accord sur un chemin, finalement.
Mais il y a aussi un autre truc très intéressant dans votre livre, et vous l'avez décrit vous-même au début de l'ouvrage, c'est que ce livre, c'est de la littérature interactive, et que justement, à chaque fois, le narrateur interpelle le lecteur tout le temps. Il dit « alors lecteur, là je te perds », enfin, à chaque fois il le prend à partie, en fait. Et puis quand on voit que vous êtes professeur de philosophie, on se dit « c'est peut-être un cours de philosophie qu'en vérité il y a caché derrière ce roman ». Est-ce que c'est ça?
Non, je ne pense pas. Il y a une volonté au départ de la part du personnage de violenter un petit peu le lecteur, de le prendre un petit peu en otage, de le secouer. Hein. Moi, quand j'ai écrit ce roman, je suis vraiment parti d'une idée, comment réveiller un mort. On a vraiment l'impression qu'on est un petit peu dans un mécanisme, qu'on est dans un grand théâtre avec la société actuelle où les gens n'osent pas être en vie. Hein, s'enferment dans des rôles sociaux, dans des rôles qu'on veut bien leur donner parce que c'est facile de mettre des étiquettes. Et donc, dans cette mesure-là, il me semblait vraiment important de réveiller vraiment le personnage du roman et par là même de réveiller le lecteur. Je pense pas que ça soit un cours de philosophie au sens où d'emblée le personnage dit attention. La pensée n'est pas efficace, la pensée ne produit pas du sens en elle-même, ça suffit pas, elle peut même produire le pire. On voit bien que chez ce personnage-là, elle peut produire le pire. Ce qui importe, c'est déjà la révolte. Donc une volonté de vivre, une volonté de vivre indépendamment de toute chose. Et dans cette quête-là, qui peut sembler parfois dérisoire, qui est burlesque, hein, y a quand même des passages très comiques à ce niveau-là, où le personnage, par exemple, organise à Rouen une manifestation contre la mort, bon, ce qui ne s'est jamais passé jusqu'à maintenant, il y a vraiment un chemin, une spécificité, une identité qui se crée. Et s'il y a un message philosophique, à la limite, s'il y a un point commun avec le cours de philosophie, ça serait sans doute celui-là.
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez le lecteur avec le fait de le secouer au début? Et à la fin, comment est-ce qu'il devrait en sortir?
une confrontation avec lui-même, à n'en pas douter, hein, retrouver l'âme dans son lit, ça, entre guillemets, une dimension symbolique au sens où quand on dort, on rêve, donc on retrouve une partie de notre identité, et en même temps, on a l'impression que quand on grandit, on laisse tomber son enfance. Moi, ce qui me choque vraiment, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand on regarde les adultes, on a parfois l'impression qu'ils n'ont jamais été enfants. Et donc là, finalement, la confrontation avec l'âme, la confrontation du personnage avec son âme, c'est presque une volonté de plonger en soi que j'essaye de mettre en exergue. Et ce qui me semble intéressant pour le lecteur, c'est que le personnage essaye de verbaliser des choses qui sont qu'on a du mal à mettre en mots, qui sont cachées, des souffrances qu'on met pas en valeur, qu'on n'ose pas même pas verbaliser parfois. Mmh. Donc il y a vraiment une plongée dans l'absurdité, dans ce qui est au-delà de la raison, dans ce qui fait que la vie n'est pas nécessairement évidente, elle ne va pas de soi, contrairement aux idées reçues, y compris l'amour d'ailleurs. On fait comme si l'amour était évident alors que il demande quand même une certaine évolution spirituelle, une certaine évolution psychique. Donc l'intérêt de l'ouvrage, c'est un petit peu une plongée en soi-même, une plongée dans cette dimension universelle qui est la condition humaine, qui est l'être humain. Et ce qui serait intéressant, je pense, que ce que le lecteur va en retirer, c'est peut-être une vie un peu plus vivante, une capacité à se rapporter à soi, à mettre des mots dans des choses qui, dans des idées qu'il n'avait peut-être pas verbalisées, dans des situations qu'il n'avait pas imaginées. Et à partir de là, ce qui me semble important, c'est que dès l'instant où on est capable de mettre en mots, on est capable de mettre en vie. Et donc, j'aurais tendance à penser que un bon livre, entre guillemets, c'est quelque chose qui met en vie dans tous les sens du terme. C'est quelque chose qui ajoute à sa vie présente et c'est quelque chose qui permet de mieux vivre par la suite.
En tout cas, merci de nous l'avoir présenté. Je rappelle que c'est Moins que rien aux éditions Toth. Il est en librairie ?
Oui, il est en librairie. Il est disponible à la FNAC, à la librairie L'Insoumise et à l'Armitière, me semble-t-il.
Et on a des ouvrages à faire gagner pour les auditeurs d'HDR. Il suffit qu'ils appellent le répondeur 02 35 12 68 91 02 35 12 68 91. Pour ce faire, il suffit juste de nous donner le titre de l'ouvrage de Didier Durmark. Je l'ai dit il n'y a même pas 30 secondes. Donc, très chers auditeurs, j'espère que vous avez bien noté. Mais vous pouvez aussi donner l'adresse de votre site internet, on peut avoir.
Oui, http://d.durmarque.free.fr2e.fr et donc vous trouvez également mon adresse email, donc ça peut être une source de dialogue.
Très bien, en tout cas merci et puis bonne chance pour Moins que rien.
Merci de m'avoir invité.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.